Luc chapitre 14, versets 1 à 14. D'où le thème de notre méditation de ce matin, la loi ou la vie. Au nom de Jésus que je vais lire ce texte. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme qu'une maladie faisait enfler se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda au maître de la loi et aux pharisiens: Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Mais ils ne voulurent pas répondre. Jésus prit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt, même le jour du sabbat? Ils furent incapables de lui répondre à ce sujet. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il dit alors à tous cette parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'un personnage plus important que toi ait été invité et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, vienne et te dise, laisse-lui cette place. Tu devrais alors, tout honteux, aller t'asseoir à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place. Pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, viens plus haut, à une meilleure place. Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés de la mort à la vie. Amen. Intéressant comme découpage textuel, car si notre lectionnaire ne se limitait qu'au verset 6, chapitre 14, versets 1 à 6, alors l'orientation de la méditation se focaliserait plutôt sur la guérison proprement dite. Mais le lectionnaire a pris un bouquet. Ici, Luc met en bouquet trois points différents. Le premier, la discussion entre Jésus et les spécialistes de la loi sur la guérison d'un malade qui n'est pas mentionné dans la version française courante, mais c'est d'un malade hydropique, un jour de sabbat. Je reviendrai là-dessus. Le deuxième, ce n'est pas du tout un récit, si vous avez bien remarqué, mais une parabole sur l'attitude des notables de la ville quand ils vont à une noce ou à une soirée mondaine. Et enfin, c'est plus une parabole, mais une recommandation ou un conseil. Si tu organises un repas, ne le fais pas comme les autres ont l'habitude de le faire. Et tout cela, Luc les met en un seul paquet. Donc ça veut tout dire. Il y a quelque chose où il veut en venir. Pourquoi il a mis ces trois points ensemble, qui n'ont rien à voir finalement. Guérison d'un malade, il parle de noces et ensuite il parle d'invitation. La question qui se pose alors, si on vous demande parmi ces trois points, où se situerait le curseur, ou l'axe principal de l'auteur? Est-ce qu'il veut mettre en lumière une guérison par rapport à la loi, parce qu'il y a le Shabbat, il ne faut pas guérir, il ne faut pas faire un travail lors du Shabbat? Ou est-ce qu'il critique la façon des notables qui assistaient aux différentes invitations, quel est le lien, etc., etc. On peut se perdre facilement dans ce genre de lectionnaire. En tout cas, ce qui est intéressant dans la démarche ou dans l'approche de Luc, c'est le fait d'apporter encore un peu plus, selon moi, d'éclairage dans sa propre lecture de ce qui s'était passé. Vous voyez, les deux parties, il les a pris pour éclairer ce qui s'est passé réellement. Il faut se rappeler que les récits dans les évangiles ne sont que des assemblages, rappelez-vous, des assemblages ou des collections de différents événements. Donc, ce n'est pas dans qui ne suit pas une chronologie. Donc, c'est toujours après un certain recul que chaque évangéliste choisit les récits comme ils veulent et il les met ensemble pour construire un message. C'est le but de l'écriture. Ce n'est pas une autobiographie de Jésus, c'est un message. Alors voici comment Luc voit les choses. Il reprend l'histoire d'un malade hydropique et déjà le choix du malade ou de la maladie est spécifique, n'est pas donné au hasard. Rappelez-vous, Luc, c'est un pharmacien. C'est un détail qu'il ne faut pas oublier. Il était le médecin traitant de Paul durant ses voyages missionnaires. Donc, c'est un scientifique. Donc, si Luc nous donne un marqueur médical dès au verset 2, il dit un malade hydropique. Alors, je me suis un peu intéressé sur cette maladie. C'est quoi cette maladie? Et pourquoi Luc l'a pris? Et pourquoi Jésus a fait un enseignement sur cette maladie? D'après les spécialistes, c'est une maladie qui n'est pas visible au départ, qui agit très lentement, laissant goutte à goutte dans le corps du sérum sanguin, contenant entre autres de l'eau. Et en quelque sorte, l'organisme fait une sorte de rétention d'eau dans toutes les cavités de l'organisme. Et c'est pour cela que la version français courant parle ici plutôt, comment il le dit, un homme d'une maladie faisait enfler, voilà, qui gonflait. Et face à cet individu qui souffre, Jésus, avec son grand cœur, ne peut pas rester insensible à ce qu'il voit. La loi, elle est claire, on ne peut pas la contourner. Mais à côté, il y a un malade. Mais avant cela, Jésus pose une question assez dérangeante aux pharisiens. Et si vous avez remarqué, d'habitude, ce sont toujours ces derniers, les pharisiens, les scribes, qui viennent vers Jésus pour lui poser des questions dérangeantes. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui a fait le chemin inverse. Il a pris le devant. C'est lui qui pose la question. Il prend le devant, non pas dans le but de savoir quelle est votre opinion, est-ce que je peux le faire ou pas, mais de les mettre devant un miroir, comme si Jésus mettait un miroir devant eux, où ils ne pourraient plus se défiler. Si vous suivez bien l'interpellation de Jésus vis-à-vis des pharisiens, il met face à face ici le cas de ce malade hydropique et les différents casuistiques dans la vie des pharisiens. Regardez le verset 5. « Lequel de vous, si son fils a son bœuf, tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du Shabbat. » Il met ces deux choses face à face. Intéressant. Comment vous voyez cette formulation de question? On peut lire entre les lignes que Jésus est en train de faire une allusion que je sais que même vous, les pharisiens les plus farouches, pour le respect à la lettre de la loi, vous appliquez, vous aussi, dans votre vie quotidienne ce qu'on appelle la loi casuistique juive. C'est-à-dire, ce sont des pratiques courantes dans le but de sauver des vies. Et de plus, ce qui est encore très frappant, c'est le choix de casuistique que Jésus avait pris. Un bœuf, c'est un cas, si, vous voyez, ce n'est pas de cas par cas, un bœuf qui tombe dans un puits, si on ne le retire pas tout de suite, cet animal, ce qui va se passer dans les minutes qui viennent, non seulement il mourra, mais il sera gonflé par les eaux. Vous voyez l'image? Et Jésus parle ici d'un malade hydropique qui gonfle. Intéressant, vous voyez le style que Jésus utilise ici, il met un miroir entre les deux. Et non seulement la bête va mourir, mais va se décomposer et contaminerait tout le puits. Et tout le village sera condamné. Donc ce n'est pas juste dans le souci du propriétaire. C'est un riche, il peut perdre juste une brebis, après il en a encore. Mais le dégât qui va suivre, c'est tout le village qui n'aura plus à boire. Vous voyez où se met le curseur de Jésus par rapport à la loi et par rapport à la vie. Alors, dans ce genre de situation, la loi sur le Shabbat n'a plus sa raison d'être pour Jésus. Je peux dire, la loi saute. Parce que il y a une mise en danger de la vie de tout un village. Ce n'est pas le souci écologique, entre guillemets, comme quoi il faut préserver la vie d'un animal. Ce n'est pas du tout ça. C'est la vie de tout un village. Non seulement que les pharisiens n'ont pas compris l'essence de la loi, mais ce qui est encore plus malsain que Jésus met en lumière, ils ont détourné cette loi pour se mettre en valeur. Comme si tout tourne autour de leur personne. Rien que dans la façon dont Jésus a posé la question, regardez bien, est-il permis de... Regardez cette façon de poser cette question. Dites, chers amis, est-il permis de guérir un jour de Shabbat? Ils se posent comme s'ils étaient les dépositaires d'autorité morale pour accorder à quelqu'un, oui, tu peux le faire ou pas. Comme s'ils étaient là pour décider ce que Dieu peut accepter ou pas en matière de législation divine. C'est ce qui se passe, chers amis, dans certaines communautés chrétiennes, même aujourd'hui. Il faut aller demander l'avis du pasteur, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Aller demander l'avis du chef d'une église ou des anciens de l'église, s'il est permis de s'habiller comme ceci ou pas, s'il est permis de manger tel aliment ou pas, ou d'autres, que sais-je encore. Il y a certains même qui envoient un SMS à leur pasteur, est-ce que je peux aller dans tel endroit? Est-ce qu'il est permis selon la volonté de Dieu? Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. En principe, dans l'éthique de Jésus, chacun devrait savoir par eux-mêmes ce qu'il faut faire ou pas. Voilà pour Jésus son éthique. Tu n'as pas besoin d'aller vers le chef de la synagogue pour savoir ce que tu peux faire ou pas. Le principe de base donné par Jésus se base sur la règle d'or, la protection de la vie. Je vais vous donner un exemple historique qui s'est réellement passé pour rendre encore plus clair ce que je suis en train de vous partager. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un pasteur, un homme d'église, qui a été arrêté par les nazis. Il soupçonnait que ce pasteur avait caché des juifs dans son église. Et il l'avait fait, vraiment. Alors, lorsqu'on le ligota, le pasteur, et l'emmena pour le torturer, en connaissant ses limites, il savait qu'il n'aura pas la force de résister à la torture qu'il allait vivre. Alors, il était partagé entre deux choses. La première, il était responsable de la vie de centaines de personnes qu'il avait cachées dans son église. De l'autre côté, il savait qu'il ne pourrait pas tenir face à la torture qui l'attendait. Il savait très bien la réputation de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur le pasteur? Il s'est jeté de la fenêtre de l'étage où il était et il est mort. Il s'est suicidé. Un cas d'éthique. Est-ce que ce pasteur a péché? Voilà la question. Car dans nos lois, le suicide est prohibé. Est-ce un suicide ce que ce pasteur avait fait ou un acte de foi? Ça, c'est une bonne question. Et je vous l'avoue, ce genre de question est le type de question qu'on nous posait lors des examens éthiques au séminaire pastoral. Les légalistes, je dirais les légalistes ou les biblicistes, et non les biblistes, c'est deux choses différentes. Les biblicistes et non les biblistes, une nuance que je tiens à souligner car les biblicistes sont des personnes qui ne font que prélever dans la Bible des références bibliques pour justifier ou condamner une pratique. On peut les appeler aussi les littéralistes. Et ce sont les cas des pharisiens qui essayaient à tout moment de coincer Jésus en disant « Il est écrit que », etc. Tandis que les biblistes, ce sont ceux qui étudient la Bible tout entière, mais pas juste une partie, et font la synthèse par la suite. Donc, les biblicistes, face à cette situation, vont tout de suite condamner, hausser le ton, que c'est mauvais, contraire à la loi de Dieu, ce qu'a fait ce pasteur. Tout de suite, sans hésiter. Mais un bibliste, lui, va voir ça dans le message de Jésus. Il a donné sa vie pour sauver plusieurs personnes. C'est vrai qu'il a eu la trouille, mais en sachant ses limites, il a préféré de prendre ce risque. Est-ce que vous n'imaginez pas que ce pasteur aurait pu aussi penser qu'est-ce qui m'arriverait après si je vais me suicider? Sûr. Mais il a pris le risque, non seulement de mourir, mais d'aller en enfer pour sauver une vie. C'est comme Moïse qui avait dit, efface mon nom dans le livre de vie, mais laisse le peuple d'Israël entrer dans la terre promise. À ce moment-là, c'est la loi de l'amour qui est emportée sur la loi. Pour Luc, la norme qui régit toute loi, c'est l'amour de Dieu. C'est elle qui la rend possible. Sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas accomplir la loi, chers frères et sœurs. C'est impossible. Et c'est ce qui est dit dans les versets 7 à 11. Grâce à lui, nous pouvons nous faire abstraction de nous-mêmes. D'accepter de s'effacer, c'est ce qui est écrit là, pour que l'autre puisse s'épanouir. Et c'est ce que Luc veut transmettre à travers la parole mentionnée par Jésus sur les personnes qui choisissent de se mettre à l'arrière ou à l'avant lors d'une invitation. Et je tiens à vous dire, cela n'a rien à voir avec la façon de s'asseoir au temple, qu'on se mette derrière ou devant. Paraît-il, les protestants aiment toujours s'asseoir derrière. C'est un peu notre réputation. Cela n'a rien à voir. Ça, c'est encore une compréhension bibliciste, mais pas bibliste. Même chose avec la partie 12 à 14, avec la recommandation pour donner suite à cette histoire de noces. La loi de l'amour enseignée par Jésus dépasse la logique mondaine. À l'exemple des chefs d'État, vous voyez qu'ils s'invitent à manger. Pendant les vacances, j'ai bien vu cela. Le président Macron qui a invité quelques personnes à manger chez lui pendant les vacances. Pourtant, derrière, il y a un objectif. On appelle ça, paraît-il, de la diplomatie. Ou plutôt, un calcul dans l'espoir de charmer son interlocuteur afin d'espérer sa faveur et en retour. Et c'est ce qui est montré ici avec cette recommandation d'inviter les infirmes, les estropiés, les personnes aveugles. Et bizarrement, n'avez-vous pas remarqué dans cette description, ce sont tous les personnes qui devraient être exclues, les impurs. On ne pouvait pas inviter les impurs. Eh bien non, la loi de l'amour dépasse la loi de la pureté. La loi de l'amour dépasse même la loi de la pureté qui a été annoncée depuis toujours. Voilà pourquoi Jésus a donné cet exemple à partir d'un cas d'un malade jusqu'à ce qu'il nous donne une réflexion sur notre conception de voir la loi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.